Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un épisode qui n'était pas spécialement prévu, mais qui s'est un petit peu imposé à moi. Voilà, je vous explique un peu tout ça, mais bref, on va parler de Titanic de James Cameron. You learn to take life as it comes at you. To make each day count. I will never let go, Jack. I'll never let go. En 1997, l'épave du Titanic est l'objet d'une exploration fiévreuse menée par des chercheurs de trésors en quête d'un diamant bleu qui se trouvait à bord. Frappée par un reportage télévisé, l'une des rescapées du naufrage, âgée de 102 ans, Rose DeWitt, se rend sur place et évoque ses souvenirs de 1912. Alors, bien évidemment, j'ai vraiment beaucoup hésité avant de faire cet épisode parce que, je veux dire, c'est littéralement, je pense, le film culte par excellence. Je pense qu'il n'y a pas plus culte que Titanic. Enfin, quand les gens pensent film culte, je pense que c'est un de ceux, voire celui qui revient le plus. C'est peut-être le film le plus connu de l'histoire du cinéma, en fait, je pense, clairement. Donc effectivement, c'est dur de se dire, je vais faire un épisode sur Titanic, parce que je ne sais pas si je peux être pertinent, en fait, parce qu'il y a littéralement tout qui a été dit. Mais j'ai tellement été marqué par l'œuvre que je me suis dit que si, en fait, enfin, je n'allais pas me priver, et voilà, que si j'avais envie d'en dire des choses, j'allais le faire. Et en fait, bon, pour la petite histoire, moi, Titanic, c'est un film que j'avais un peu vu sans voir. Voilà, il y a beaucoup de films comme ça. Je sais que, en plus, beaucoup de films de James Cameron, hein, parce que Avatar aussi, le premier, j'étais un peu comme ça. C'était un peu, ouais, beaucoup vu sans voir, en fait. Si vous voulez, c'est Titanic, c'est le film qui repasse, je sais pas combien de fois, à la télé, je sais pas quoi, que voilà, tout le monde regarde quand il passe à la télé. Sauf que moi, à titre personnel, quand j'étais plus petit, j'avais dû voir des extraits, tout ça, de voir des brides de passage, en fait. J'avais dû peut-être même voir tout le film, mais pas à la suite. Je me suis jamais posé vraiment concrètement 3h15 pour regarder Titanic. Donc effectivement, oui, il y a des scènes, je les connaissais. Je connaissais plein de trucs du film. Je peux pas dire que j'ai découvert Titanic dans la sens à laquelle j'ai été. J'ai pas découvert le film, mais pour autant, je peux pas non plus ne pas dire que c'était pas la première fois que je le regardais vraiment. Voilà, c'était clairement la première fois que je regardais ce film dans des bonnes conditions et que je me disais je regarde le film, quoi. Voilà, c'était vraiment la première fois où je regardais véritablement le film. J'ai découvert dans des conditions absolument exceptionnelles. J'ai découvert en Grand-Normandie à Paris avec cette version donc restaurée en 4K et en 3D. Donc je regrette pas du tout, en fait, de l'avoir découvert comme ça. Mais ouais, effectivement, il y a toujours ce truc-là avec les films un peu cool qu'on rattrape tard, où on se dit, est-ce que peut-être j'aurais pas dû le regarder plus tôt ? En vrai, je pense pas, parce que du coup, ça fait que je l'aurais pas découvert comme ça, je me le serais pas mangé comme ça, et je pense que c'est fort dommage, voilà. Je pense que pour mon premier vrai visionnage du film, le fait que ça ait été en salle et dans une aussi belle salle, je pense que c'était parfait, voilà. Donc vraiment, au final, pas de regret. Et donc en fait, il y a un autre truc qui m'a poussé dans ma décision à faire cet épisode, c'est que je me suis dit, c'est la Saint-Valentin, j'ai pas eu le temps de préparer un trop gros truc parce qu'entre les films que j'ai vus en projection presse et le flop film que je dois encore sortir, j'ai pas eu le temps de faire un épisode spécial Saint-Valentin, genre 5 films que j'ai fait pour Halloween où j'aurais pu faire ça. Donc j'ai pas eu le temps de faire ça, donc un épisode sur Titanic, c'est très bien pour la Saint-Valentin, et donc voilà, épisode sur Titanic. Donc par où commencer ? Ça c'est peut-être le plus dur, par où commencer quand on parle de Titanic ? Non, déjà c'est quand même un film moi qui me marque, voilà, parce que je l'ai vu pour le 25e anniversaire du film. 25 ans, c'est quand même c'est une légende, voilà. Le film est aussi, la légende du film est aussi grande que celle du bateau, en fait, de la vraie histoire. Donc c'est vrai que, encore une fois, voilà, il y a tout un truc de, ouais, pour moi, c'est un peu l'image que j'ai du film, c'est le film culte par excellence, quoi. Je pense que si à des personnes vous leur dites c'est quoi le film le plus connu du monde, je pense qu'il ressortirait vraiment vraiment pas mal. Voilà, peut-être avec 2001 éventuellement, voilà, je pense aussi. Peut-être avec Avatar, vu qu'il y a un effet de un peu culture de l'instant éventuellement. Mais effectivement, ouais, c'est voilà, sorti à 25 ans, et je vous assure que vraiment, pendant tout le film, j'ai cherché à voir vraiment les petits défauts, les petits trucs de... Normalement, quand on regarde des vieux films, il y a quelques effets visuels où on tique un peu en mode « Ah oui, ça se voit que bon, c'est pas récent, etc. » Vraiment, Titanic, si je chipote, ça doit arriver 2-3 fois sur les 3 heures. Vraiment, c'est absolument incroyable comment vraiment James Cameron réussit ce qu'il veut faire. Parce que il a fait des interviews où il dit « Moi, en fait, je voulais faire un truc qui est genre intemporel, etc. » Et il a réussi. Parce que véritablement, moi, personnellement, si je ne connaissais pas le cinéma, si je ne savais pas que Titanic était sorti il y a 25 ans, si j'y... franchement, si j'avais vu ça en mode « Bon, bah, ok, un nouveau film, putain, ok, je vais le voir. » Bon, quand même, voilà, on peut tirer par les cheveux. Mais dans un monde où on sait jamais, dans une réalité parallèle où vraiment, j'y connaissais rien au cinéma et j'y serais allé comme ça en pensant que c'est un film qui venait de sortir, je n'aurais pas vu vraiment. Je pense que... Enfin, je crois pas abuser en disant que pour moi, vraiment, on ne voit pas que le film a 25 ans et ça aurait été crédible, pardon, si le film était sorti bah, là, aujourd'hui, en fait. Et c'est ça qui aussi est formidable. C'est parce que autant il y a des films qui sont formidables, hein, il n'y a pas de souci, des vrais chefs-d'œuvre, mais qui vieillissent quand même. Mais Titanic, non. Titanic, vraiment, c'est. En fait, James Cameron arrive à faire avec son film ce que les créateurs du bateau voulaient faire, c'est-à-dire vraiment faire ce truc indestructible, qui dure et qui, voilà, qui vraiment ouais, ce truc, bon, j'ai pas envie de dire insubmersible parce que pour un film ça veut rien dire, mais pour le coup qui prend pas de ride, quoi, voilà, vraiment un truc qui reste en place et qui dure dans le temps et qui, voilà. Et vraiment, c'est cette volonté qu'avaient les créateurs du Titanic de faire le bateau le plus solide du monde, qui ne coule pas, etc., et qui restera toujours en place. Bon, pour le coup, malheureusement, on connaît l'histoire, c'est pas ce qui s'est passé, voilà. Mais James Cameron, lui, avec son film, c'est ce qu'il a réussi à faire. Et franchement, déjà, rien que ça, ça m'a bluffé. Et donc ça passe par les effets visuels, comme je vous l'ai dit, voilà, enfin les effets visuels numériques, comme on les entend aujourd'hui, mais il y a aussi des effets visuels, en tout cas, aussi naturels, parce qu'il y a quand même une photo qui est absolument dingue, et je pense à la scène culte du coucher de soleil, qui, pour le coup, bah, apparemment, n'est pas faite en effet numérique, voilà, donc c'est assez fort d'avoir fait cette photo-là naturellement, c'est très très fort. Et bien évidemment, bon, bah, ça offre son lot de scènes cultes qui m'ont fait frissonner à chacune d'entre elles, et voilà, c'était... Ça, en tout cas, au niveau de scène culte et au niveau de la réception de cette scène culte, de ces scènes cultes en salle, pardon, j'ai pas été déçu, ça m'a fait frissonner à chaque fois, c'était vraiment formidable à vivre. Ensuite, il y a quand même deux aspects, je trouve, pour moi, de Titanic quand même, qui sont un peu évidents. On a l'aspect d'un côté film romantique avec Rose et Jack, qui, bon, en vrai, qui est un peu aussi... il n'y a pas vraiment de fil conducteur entre les deux aspects, j'ai l'impression, il n'y en a pas un qui se dégage, les deux se sont très étroitement liés, mais donc forcément bah, l'aspect romantique dure tout le long. Après il y a l'aspect catastrophe, où bon, bah, l'aspect catastrophe c'est pas tout le film pour le coup, c'est quand le bateau coule par définition, parce que bon, quand le bateau vogue sur la mer et qu'il se passe rien, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir des codes de cinéma de catastrophe. Mais pour le coup, vraiment, quand ça part dans du cinéma catastrophe, moi, ça m'a absolument claqué la gueule. Vraiment, je trouve que ce qui m'a fasciné dans ce film, et je pense que c'est ce que j'en retiendrai le plus, c'est la sublimation par la catastrophe. Parce que vraiment, tout prend sens. Tout, c'est ça qui est fou, en fait, dans ce film, c'est que tout prend sens. Tout devient incroyable à partir du moment où on nous montre vraiment la catastrophe, où on nous montre la tragédie, où on nous montre vraiment l'horreur au possible, où on nous montre des choses vraiment, enfin un événement horrible, littéralement. C'est quelque chose qui est très très dur à regarder, vraiment, parce que pour le coup, bon, bah, le génie de mise en scène de James Cameron fait que, mais pour le coup, c'est là où tout se sublime, et y compris l'histoire entre Jack et Rose. Voilà, parce que pour moi, hein, je sais que ça fait un peu débat, mais moi, en fait, très clairement, plutôt même vers le début du film, je me suis rangé dans ceux qui considèrent que, en fait, Jack et Rose, bah, au début, ne s'aiment pas vraiment et qu'ils sont plus attirés par ce que l'autre représente. C'est-à-dire, bah, pour le coup, pour les deux, un moyen de s'extirper d'une classe sociale dont ils ne veulent peut-être pas. Voilà, parce que bon, bah, Jack, c'est vrai qu'il a beau, je sais pas, ouais, dire que « Oh, mais moi, j'aime bien faire du dessin, vagabonder à droite à gauche. » En vrai, quand on te propose d'aller à un dîner un peu chic et tout, t'aimerais bien t'émanciper quand même de ta classe sociale, même si pour le coup, tu ne maîtrises pas les codes de la classe supérieure, mais que tu fais en sorte de les avoir, tu essayes, mais ça marche pas trop. Et bien évidemment, on lui fait comprendre qu'il n'est pas à sa place, avec du mépris de classe, hein, très clairement. Ça, c'est toute la scène du VDD, vraiment. Il y a juste, je crois que c'est Mrs. Brown, qui est un personnage adorable d'ailleurs, qui est très sympathique avec lui. Sinon, tout le reste, vraiment, c'est du mépris de classe bien profond. Et en fait, il y a Rose qui, pour le coup, bon, bah, Rose, en vrai, comment dire? Je pense, ouais, si, non, elle est plus dans une optique parce qu'en fait, elle n'est pas du tout comme les autres. En fait, elle est dans une classe sociale qui est très aisée, qui est très bourgeoise, mais elle est dans cette classe sociale-là parce que c'est une histoire de mariage arrangé, pardon, et en fait, c'est clairement pour l'argent et machin, bref. Donc, vraiment, elle est bloquée là-dedans, elle peut pas, voilà, elle peut pas s'en sortir. Et en fait, elle sait pertinemment qu'elle n'est pas comme les autres de cette classe sociale-là, vraiment. Elle le sait, et elle sait qu'elle ne le sera pas, et parce qu'elle n'a pas envie de l'être. Et donc, en fait, vraiment, de voir ce jeune homme-là, qui, du coup, bah, représente littéralement ce qu'elle voudrait être, ça fait que, forcément, elle se projette. Et donc, voilà, c'est comme ça, pour moi, que l'histoire commence. C'est-à-dire que les deux, en fait, littéralement, la première fois qu'ils se voient, les deux se projettent dans, vraiment, l'image que l'autre renvoie. C'est-à-dire que ils aimeraient être comme l'autre, ils aimeraient appartenir à la classe sociale de l'autre, mais pour le coup, ils ne le sont pas. Et en fait, c'est justement cette perspective-là qui les attire l'un chez l'autre. Voilà, enfin l'un à l'autre plutôt. Et donc en fait, moi, pour vous dire la vérité, jusqu'au moment où l'iceberg tape, je ne crois pas forcément à leur histoire d'amour. Voilà. Pour le coup, je suis plus dans un truc vraiment où, pour moi, il y a vraiment juste deux gens qui essayent de s'extirper de leur classe sociale. Et en fait, je trouve que c'est justement bah, avec la catastrophe que James Cameron va réussir à sublimer cette histoire d'amour. Et justement, bah, pour le coup, me convaincre vraiment. À la fin, d'accord. Mais pendant une bonne partie du film, je ne le suis pas. Et je me suis dit, mais merde. Genre, déjà, je me suis dit, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème de quand même que c'est censé être une des plus grandes histoires d'amour de tous les temps? Je sors cet épisode pour la Saint-Valentin et je n'ai pas cru à l'histoire d'amour. Enfin voilà, au début. Et je me suis dit pendant le film, putain, mais qu'est-ce qui se passe si j'y crois pas du tout? Et en fait, le génie de James Cameron, c'est que même durant les premières parties, je trouve qu'il y a des longueurs, notamment l'ouverture. Je me souvenais pas que c'était aussi long. Et j'ai trouvé ça quand même pas mal long, l'ouverture dans les sous-marins et tout. Et pour être très honnête avec vous, la 3D plus la restauration, tout ça, j'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction. C'était très étrange. Voilà, puis bon, bah, surtout James Cameron, bref. Et donc, bon, voilà, effectivement, j'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction, donc un peu étrange. Mais donc, oui, effectivement, il y a ces longueurs-là. Et je trouve qu'en fait, à la fin, elles prennent vraiment tout leur sens. C'est vraiment cet univers latent, cet écosystème à part entière qu'on fait croître, où on a. Ah bon bah voilà toutes sortes de classes, toutes sortes de toutes catégories de population. Mais donc oui, le Titanic en fait est tellement énorme que c'est un écosystème, c'est même une micro-société à lui tout seul en fait. Et c'est super intéressant de voir comment évolue cette société où on voit littéralement ces montages alternés entre bon bah les danses dans les cales de troisième classe qui sont super festives, super joyeuses et d'un coup, vraiment d'un seul coup, il y a un cut où on repasse dans des dîners de bourgeois de oh, tout calme et tout triste. Et en fait, bon, bah voilà, c'est aussi, on se rend compte que, bon, bah effectivement, la véritable richesse, c'est pas forcément l'argent. Voilà, bref, c'est pas parce que vous avez de l'argent que vous allez plus vous amuser, parce que, bon, bah, une bière bon marché et danser sur de la musique irlandaise, c'est plus rigolo. Mais ça, c'est le genre de truc dans lequel je veux pas trop tomber en termes de remarques, parce que je sais que c'est des trucs très basiques qui ont déjà été dit sur Titanic, donc je vais essayer de passer vite. Mais bref, effectivement, et je trouve que, bien évidemment, bah, les révélateurs d'inégalité, c'est quand même le naufrage, voilà, parce que. Naufrage parce que oui bon bah effectivement déjà c'est les passagers de première classe qui embarquent en premier voilà mais aussi même au-delà de sans parler sans aller jusqu'à le sauvetage voilà dans les canaux c'est les premiers touchés c'est quand même les machinistes parce que c'est ceux qui sont plus bas vraiment et donc bon bah il y a vraiment cette métaphore de l'échelle sociale de la société pyramidale tout ça bref voilà encore une fois des trucs très basiques que des gens ont déjà dit et que je veux pas trop dire mais donc en fait ce qui est pour moi, très impressionnant dans ce côté catastrophe que je trouve quand même plus réussi que le côté romance, vraiment. Comme je vous l'ai dit, moi, je trouve que vraiment, c'est la catastrophe qui sublime la romance. Mais un truc qui m'a surpris pour le coup, parce que comme je vous l'ai dit, c'était vraiment la première fois que je regardais vraiment le film, c'est en fait à quel point le naufrage arrive beaucoup plus tôt que ce que je pensais, vraiment, dans le film. À partir du moment où le naufrage a commencé, je me suis dit, ok, donc on va arriver rapidement vers la fin. Et en fait, c'est beaucoup plus long à se conclure. Et je trouve ça absolument magistral, notamment le début du naufrage, où vraiment, littéralement, James Cameron filme ça comme dans un film d'horreur, vraiment. Il y avait des scènes avec l'eau, où j'avais l'impression qu'il essayait de nous filmer ça comme Kubrick filme l'ascenseur qui s'ouvre plein de sang dans Shining. Enfin, vraiment, j'ai trouvé la mise en scène, pour le coup, du début, je la trouve assez terrifiante et je la trouve vraiment digne limite d'un film d'horreur. Dans le sens, bon, bah, après, l'horreur, c'est large, hein, mais pour le coup, ouais, Shining, par exemple, voilà, quand Rose se balade entre guillemets quand elle cherche Jack dans les cales du bateau. Vraiment, pour moi, il y a un truc qui m'a vraiment fait penser à Shining et j'étais vraiment très 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 tendu et j'ai trouvé ça vraiment vraiment magistral, en fait, à quel point effectivement c'était quand même dans tout ce qui se passe dans le film, c'est vraiment, je pense, le truc le moins spectaculaire quand il n'y a pas vraiment encore d'eau mais qu'elle commence à arriver et qu'on commence à voir à peu près l'eau qui commence à être sur le sol, mais juste un tout petit peu d'eau sur le sol, voilà. C'est peut-être le truc le moins magistral qui se passe du film, surtout vu ce qui suit après. Et pourtant, il arrive à en faire un truc vraiment exceptionnel. Et voilà, après, ça y va crescendo, bien évidemment. Mais j'ai été vraiment absolument bluffé. Bluffé par ce film, bluffé aussi par... En vrai, il y a quand même des trucs, bon, c'est vrai, notamment le personnage, je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Cal, je crois. Non, c'est pas Cal, je sais plus. Bref, celui qui est censé, enfin, que Rose est censée épouser. Si, c'est Cal, c'est ça. Qui est absolument détestable. Bref, bon, lui, bon, voilà. Bref, je vais pas spoiler quand même. On sait jamais. S'il y a des gens qui, comme moi, l'ont pas encore vu, bah, écoutez, allez en salle, hein, vraiment. Même si au moment où vous écoutez l'épisode, je sais pas s'il y sera encore. Normalement, je le sors le 14, mais c'est peut-être son dernier jour en salle. Bref, mais donc oui. Il y a effectivement peut-être un peu trop d'intrigue avec ce Cal, mais en même temps, ça met quand même, enfin, ça dénonce, je trouve, une certaine image de virilité, de masculinité toxique, où vraiment, pour le coup, bah, elle est clairement heureuse, en tout cas, enfin, d'après ses dires, hein, elle est clairement heureuse avec un autre, et alors que, bah, en fait, elle l'a jamais aimé, hein, très clairement, mais du coup, il veut pas la lâcher, et quitte à lui-même parfois, enfin. Le gars est prêt à risquer sa vie juste pour la faire chier, en fait. Voilà, donc effectivement, il y a peut-être aussi cet exemple-là de toxicité qui fait que bah, y a une profonde antipathie, en fait, pour ce personnage, et ce qui est totalement normal, hein, vraiment. Voilà. Je pense pas qu'à aucun moment James Cameron essaye de montrer ce mec-là comme quelqu'un de bien. Bon, bah, effectivement, voilà, c'est un peu même. Le mec avec la mère aussi qui est absolument qui est froide, qui est, enfin, les deux iraient très bien ensemble, en fait, hein. Et moi, d'ailleurs, c'est bizarre, mais dans mon souvenir du film, je sais pas pourquoi, pour moi, les deux avaient une affaire, bref, mais ça, la mère à Rose et Cal, bref, bon, c'est bizarre, mais dans tous les cas, ouais, c'est vraiment montré comme des personnes austères, des personnes vraiment très froides, qui pour le coup, voilà, je pense pas que Cameron cherche à les valoriser, en fait, et c'est bien normal parce que c'est pas des personnes très attachant. Donc en soi, ça fait absolument pas de doute, en fait, pour moi, dès le début, hein, même peu importe à quel point vous connaissez l'histoire, que vous allez voir un amour impossible, très clairement. Et effectivement, cet amour, il est impossible, comme je l'ai dit, parce que bah, c'est une raison de classe sociale, hein, voilà. Et vraiment, ces deux personnages-là, pour moi, le personnage de Cal et de la mère de Rose, c'est vraiment l'incarnation, en fait, de cette impossibilité à travers la classe sociale, et justement le fait qu'ils ont encore plus envie d'aller braver ça. Voilà, mais pour moi, foncièrement, au début, c'est pas vraiment une histoire d'amour. Voilà. Et c'est pas grave. Pour le coup, ça me faisait chier quand je regardais le film, mais en fait, comme je le dis, c'est tellement sublimé, en fait. La catastrophe fait que vraiment, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus de trucs, parce que Rose, elle peut partir à tout moment, en fait, parce que c'est une femme de première classe, donc c'est littéralement une des premières personnes, enfin, les personnes qu'on fait embarquer en premier, en fait. Donc Rose, à tout moment, elle peut partir. Mais en fait, la catastrophe et comment dire, l'inéluctabilité de la tragédie fait que tout va être remis en cause. Et c'est ça que je trouve beau. C'est là où vraiment ça arrive à se sublimer. Et pour moi, c'est vraiment là qu'elle arrive à vraiment apprécier véritablement l'amour qu'elle a pour lui. Voilà, et c'est là où vraiment, potentiellement, on peut appeler ça de l'amour, parce que avant, pour moi, c'est vraiment plus autre chose. Mais donc oui, j'ai vu des gens dire qu'ils trouvaient la dernière partie longue, Alors certes, mais après, si vous voulez, je pense que les gens qui ont vécu le naufrage du Titanic, pensent que, bon, bah, en tout cas pour ceux qui sont restés, enfin qui, j'ai pas envie de dire qui ont eu la chance, parce qu'il y a vraiment des images horribles, vraiment, mais dans le film, et puis bon, bah, ça a dû arriver dans la vraie vie, hein, bien évidemment, qu'il y ait des images horribles, non pas qu'il y ait eu quelqu'un pour les filmer, mais voilà, mais bref, en tout cas pour les gens qui ont eu de la chance ou le malheur de rester jusqu'à la toute fin du naufrage, ça a quand même dû vraiment paraître une éternité. Enfin, en vrai, je sais pas. En fait, c'est tellement, je trouve, et je trouve que Cameron arrive bien à vraiment faire ressortir ça. Mais en fait, c'est comment des gens, comment on réagirait face à vraiment une mort certaine et imminente. C'est quand même très compliqué à vraiment de répondre à cette question, quoi. Vraiment, c'est très très compliqué. Enfin, la mort est pas certaine. En tout cas, c'est certain qu'il va y avoir des morts, et c'est certain qu'il va même y avoir une majorité de morts, parce que pour ceux qui, bon, bah, ont pas vu le film et qui historiquement ne connaissent pas l'histoire, le Titanic n'avait pas pris du tout assez de canots pour sauver tout le monde, voilà. Et dans le film, bon, après, je sais pas si ça c'est exact ou pas. Je sais juste qu'il y avait pas assez de canots, mais en gros, il pouvait sauver le maximum la moitié des passagers, voilà. Et d'ailleurs, il y a une autre anecdote qui, pour le coup, n'est pas dans le film. Mais en fait, dans le film, quand ils contactent d'autres bateaux pour qu'ils viennent à leur rescousse, ils ont une réponse dans le film, c'est celle d'un bateau qui a 4 heures. Sauf qu'à ce moment-là, le Titanic n'a plus que 2 heures avant d'être totalement au fond de la mer. Donc, bon, bah, bien évidemment, c'est trop tard. Et en fait, il faut savoir pour l'anecdote que si le Titanic, en tout cas, les passagers du Titanic n'ont pas pu être sauvés, ou bon, en tout cas, pas pu être aidés par d'autres bateaux, c'est parce qu'en fait, l'opérateur radio du bateau le plus proche du Titanic, qui n'était pas du coup celui qui a répondu, s'était endormi et donc en fait n'a pas eu les signaux de détresse. Voilà. Et donc bon, bah, après on peut pas refaire l'histoire, mais on peut présager, éventuellement, on peut, voilà, se douter que si cet opérateur radio était réveillé au moment des signaux de détresse du Titanic, ça aurait pu sauver beaucoup de monde. Après, on aurait pu aussi présager, de, voilà, bon, si, bon, ils n'étaient pas aussi confiants, et si éventuellement, bon, ça n'avait pas l'image du bateau insubmersible, etc., est-ce qu'ils auraient fait plus attention, et du coup ils auraient pas pris l'iceberg très probablement. Maintenant c'est comme ça que ça s'est passé, on peut pas changer l'histoire, hein, mais voilà. Mais donc oui, toujours sur cet aspect catastrophe, en fait je trouve que, enfin, moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est, bah, vraiment la reproduction d'un naufrage, en fait. Et en fait c'est assez impressionnant. Il y a un parallèle au début où, en gros, le chercheur qui, bon, bah, cherche le collier, le cœur de l'océan, je crois que c'est d'ailleurs le cœur de la mer, mais ils ont traduit ça par The Heart of the Ocean, parce que du coup à la base c'est un nom français pour le collier, bref. Mais en gros, oui, bon, bah, qui cherche le collier, il lui fait un petit pitch à Rose en mode, alors oui, au début il s'est passé ça et machin, un truc. Et elle lui fait, ouais, c'est un bon rapport, genre, de médecin légiste, ça, mais moi j'y étais sur le bateau, en fait. Donc voilà. Bref, et donc du coup, je trouve qu'il y a vraiment ce truc-là où on sent, enfin, vraiment pendant le film, on sent la différence, quoi. C'est-à-dire qu'on sent vraiment au début, quand c'est le mec qui nous raconte ça via son logiciel 3D, et quand nous, on le vit, en fait. Parce que vraiment, on a vraiment l'impression de vivre ce truc-là, et pour le coup, de comprendre parfaitement ce que dit Rose, dans la scène du début. Et vraiment de ce truc-là, en mode, oui, c'est bien, toi, tu nous as fait ton petit rapport avec ton petit logiciel 3D, mais là, regarde, en fait. Regarde ce qui se passe. C'est même pas regarde, c'est vraiment, nous, on l'expérience. Tu vois, tu as beau nous expliquer, ça ne sert à rien, parce qu'en fait, on est là. Et ça, c'est une force immense dans le film, vraiment. C'est vraiment, mais incroyable. Et c'est vraiment, je pleurais, mais en fait, je pleurais à la fois d'émotion, parce que je trouvais que, bah, enfin, l'histoire entre Jack et Rose décollait. Je pleurais parce que, aussi, il y avait ça, mais il y avait aussi, et peut-être même surtout, je pleurais parce qu'en fait j'étais en admiration devant ce que je voyais. Ça me fait très rarement ça, d'être autant en admiration devant des séquences de cinéma. Mais vraiment, je vous promets que vraiment j'avais envie de pleurer parce que je trouvais, mais ça, mais fabuleux, vraiment. Voilà, des larmes d'admiration, quoi, littéralement. Et c'est ça que je trouve fascinant avec Titanic, en fait. Déjà, vraiment, de me réussir à me faire pleurer d'admiration, c'est fort. Et en fait, enfin, vraiment, avec cette séance de Titanic, j'ai vraiment eu l'impression de vivre un des moments les plus beaux de ma cinéphilie, vraiment. Enfin, comme je l'ai dit en intro, c'est vraiment le film culte par excellence. C'est vraiment le film que tout le monde a vu, quoi. Enfin, même vos parents, vos grands-parents, et vos petits frères, vos petites sœurs, vos grands-cousins, vos petits cousins, tout le monde a vu Titanic. Et pourtant, la qualité du film fait que J'étais absolument estomaqué, absolument, mais claqué. Et vraiment, déjà, le film en tant que tel, les qualités cinématographiques du film sont, cinématographiques, pardon, sont exceptionnelles. Et vraiment, ouais, le travail, le travail de restauration 4K et du relief en 3D, c'était beaucoup trop, en fait. C'était vraiment un alignement des planètes, cette séance. Et waouh, c'était vraiment, je vous cache pas que il y a un moment où j'ai fait une pause, en fait, en parlant. Et j'ai voulu reprendre et j'ai senti l'émotion qui montait. J'ai fait peut-être attendre un petit peu. Et j'ai encore l'émotion faite en vous parlant parce que j'ai des images en tête. Mais en fait, j'ai du mal à comprendre comment, en fait, j'ai pu être aussi fasciné et aussi admiratif devant un événement qui reste quand même une des plus grosses catastrophes de l'histoire de l'humanité. Alors oui, je sais bien que je n'ai pas vu le crash du Titanic devant mes yeux. Je sais bien que je n'ai pas vu ce crash-là. Je sais bien que j'ai vu une fictionnalisation du crash du Titanic. J'en ai parfaitement conscience, pardon. Mais James Cameron est tellement doué et tellement... En fait, c'est tellement contradictoire, ça me perturbe autant que ça m'émeut. C'est tellement contradictoire, en fait, comment dire, de sublimer l'affreux, sublimer la fatalité, de sublimer la tragédie. Et je sais pas vraiment, j'en perds mes mots, en fait. C'est absolument horrible, ce podcast ne me ressemble à rien. Mais ouais, c'est un effet indescriptible que ça a sur moi et... C'est absolument... voilà. Donc je suis désolé, je pense que c'est très rare que je peine autant à trouver mes mots dans ce podcast. Mais voilà, ouais, c'est juste que je vois pas d'autres mots, en fait, que bouleversé pour décrire vraiment ce que m'a fait J'ai aucune idée de la temporalité du film, en fait. J'ai tellement vécu le truc que j'ai aucune idée de combien de temps la partie du naufrage dure. Mais cette partie du naufrage... En tout cas, enfin ouais, il y aura un avant et un après, c'est sûr, vraiment. Et je saurais pas dire pourquoi, je saurais pas. Enfin, si, parce que James Cameron est un putain de génie et que putain, enfin son talent de mise en scène son talent de mise en scène et la reconstitution de ses décors et tout. Et en fait, je veux voir tout le making of de ce film. Je pense qu'aujourd'hui, si je pouvais remonter dans le temps et faire quelque chose, bah, j'assisterais au tournage de Titanic parce que je trouve ça tellement fascinant. Et ouais, cette séquence, ça m'a bouleversé pour moi, vraiment, c'est le point culminant du film, c'est ce qui représente le mieux pour moi ce que je retiens du film, c'est-à-dire la sublimation de la catastrophe. Et voilà, je trouve que par cette catastrophe, vraiment, James Cameron a l'essence de son film. Parce que effectivement, c'est mieux s'il y a une histoire d'amour, en tout cas pas forcément une histoire d'amour, mais un point d'ancrage, des personnages à qui on peut se rattacher pour le vivre, parce que ça crée plus d'émotions, même si c'est vraiment, bah bon, c'est une tragédie, ça crée plus d'émotions, et puis scénaristiquement, c'est plus facile de le raccrocher à des personnages principaux, bien évidemment. Voilà, ça aurait été un tout autre film s'il avait voulu le faire. S'il avait voulu le faire sans Rose et Jack, tout simplement. Mais pour le coup, je trouve qu'il perd pas de vue quand même que c'est un film catastrophe. Et les images à la fin aussi, je sais pas vraiment un spoil. Enfin, bref, oui, bon, bah, les gens meurent gelés dans la mer, en fait. Et en fait, certes, un canot revient pour essayer de trouver des survivants. Et c'est horrible, mais ils sont littéralement autour d'une mer de cadavres. Et en fait, ça, c'est des images qui, voilà, sont horribles et qui, en même temps, qui marquent. Et en même temps, la manière qu'a James Cameron de les filmer, de filmer en même temps l'espoir que peuvent avoir Jack et Rose, et en même temps la panique qu'il y a autour, et en fait, tout ce qui s'enchaîne. Et je trouve que je parlais, je sais même pas si j'étais au bout de cette réflexion tout à l'heure, tellement je suis ému et j'ai du mal à formuler mes pensées. Mais je parlais de cette faculté de James Cameron à reproduire comment dire, c'est les réactions des gens qui sont du coup face à une mort imminente et quasiment certaine. Et voilà, on ne sait pas du tout. James Cameron n'a jamais été dans cette situation-là. Moi, j'ai jamais été dans cette situation-là. Et j'espère que quelqu'un d'entre vous n'a jamais été dans une situation-là. Enfin, après, sinon, ça veut dire que vous avez survécu, donc tant mieux. Mais je trouve qu'en fait, c'est même pas. Il arrive à le retranscrire. Il nous le fait ressentir, même il nous le fait vivre, en fait. Ça transcende, je trouve, tout ce qui voilà, ça transcende tout ça en fait. Pour moi, c'est même plus du ressenti, c'est même plus de la reproduction, c'est ouais, ça transcende tout et je voilà, j'ai l'impression de vraiment vivre ce truc et ouais, je pense que c'est en tout cas une fois, je sais pas combien de temps ça dure mais c'est en tout cas une des séquences les plus maîtrisées que j'ai vues dans ma vie et la fin avec ce parallèle dans les dans le voilà Rose qui en fait on comprend que bon bah elle a jamais oublié Jack et qu'elle rêve tous les soirs etc et que bon bref voilà ça aussi c'est ce que j'appelle de la sublimation par la catastrophe et bref c'est ce film est absolument fabuleux et magnifique et voilà. Alors avant de conclure j'aimerais quand même aussi dire un petit mot rapidement sur le HFR parce que j'en ai parlé plusieurs fois dans ce podcast et c'est quelque chose qui me passionne. Je trouve qu'on ne sent pas trop le HFR de Titanic. Je trouve qu'il est beaucoup utilisé à des fins de lissage pour vraiment sur des transitions ou sur des scènes avec de l'eau, etc., pour que ce soit un peu plus fluide, mais on le ressent vraiment pas du tout, sauf sûrement peut-être à la toute fin. Voilà, mais sinon je trouve que on le ressent pas. Et vous savez quoi, c'est pas plus mal parce que j'aurais pas voulu en fait. Moi j'ai beaucoup aimé le HFR dans Avatar 2, mais j'aurais pas voulu qu'il nous fasse comme dans Avatar 2 sur Titanic. Voilà. Je m'en rends compte, mais vraiment, mais voilà. James Cameron, c'est un mec qui sait avoir un usage proportionné du HFR. Là, au moment où j'enregistre, bon, comme il est minuit passé, on est lundi 13. Dans 2 jours, il y a Ant-Man 2 qui sort et Ant-Man 2 va sortir en HFR. Donc, ça va être vraiment la première exploitation du HFR depuis Avatar 2. Voilà. Ça aura vraiment pas traîné. Et en fait, il faut savoir que Ant-Man 2 n'a absolument pas été pensé en HFR et que Cameron, s'il a pu mettre Titanic aussi, enfin fluidifier certains passages en HFR, c'est qu'il a un logiciel qui est fait pour ça, qui est fait pour la post-prod, pour voilà, faire du HFR en post-prod. Et je pense qu'ils ont clairement pris le logiciel de Cameron pour le faire sur Ant-Man et que ça va être catastrophique et que eux, du coup, vont l'utiliser un peu à tout bout de champ. J'irai voir Ant-Man en HFR hein, pour voir ce que ça donne, mais voilà, bref, j'ai pas très 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 confiance. Voilà, tout ça pour dire que pour le coup, même le HFR est proportionné et qu'en fait, voilà, c'est vraiment sur ce film, je pense que c'est le. On peut appeler ça une maestria parce que sur ce film, vraiment, en tout cas, sur Titanic, James Cameron est un maître. Et il nous donne une leçon de cinéma, et voilà, on peut limite, enfin, c'est pas limite, on peut appeler ça du coup une masterclass, et voilà, Titanic, c'est. Ouais, c'est, voilà, bah, la classe du maître, quoi, c'est absolument fou, et voilà, franchement, pour quelqu'un qui pensait ne pas avoir grand-chose à dire sur le film, j'avoue que j'ai quand même enregistré 40 minutes en faisant beaucoup moins de pauses que sur mes autres épisodes. Bon, je sais pas combien de temps fera l'épisode au final, mais voilà. Après, il faut dire que j'ai beaucoup été ému, que j'ai beaucoup peiné à trouver mes mots, donc je sais pas ce que je vais laisser au montage, mais bref, voilà. Et donc, c'est la fin de cet épisode, voilà, j'espère qu'il vous aura plu, bien évidemment, c'est pas moi qui vais vous apprendre que Titanic est un film parfait pour la Saint-Valentin. Voilà, même si, bon, pour le coup, au début, c'est peut-être pas une histoire d'amour, mais bref, en tout cas, c'est un des plus beaux films qui existent, une des plus belles choses qui ait pu arriver au cinéma, et voilà, j'aime ce film de tout mon cœur, et je suis tellement, tellement, tellement heureux de l'avoir vraiment découvert pour la première fois dans les conditions dans lesquelles je l'ai vraiment découvert pour la première fois. Et putain, j'ai juste envie de dire vive le cinéma et merci James Cameron. C'était tout pour moi, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ma part, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Alors ce sera soit un épisode sur un film de février, soit le plop film. Faut que je vois voilà, en fonction de mes dispos et du calendrier, est-ce que j'arrive à finir à temps ou pas. Mais voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos avis et à partager. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.